Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était aujourd'hui la deuxième et dernière journée du sommet Russie-Afrique à Sotchi, au bord de la mer Noire. Vladimir Poutine y recevait une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains. Objectif, développer les relations entre la Russie et le continent africain, qu'elles soient commerciales, stratégiques ou plus simplement politiques et d'influence. Après le lent déclin qui a suivi la fin de l'ère soviétique, c'est que la Russie a du terrain à rattraper sur le passé, mais aussi sur d'autres pays bien implantés sur le continent africain, comme les anciennes puissances coloniales, la France par exemple, mais aussi, peut-être surtout, la Chine. L'Afrique est-elle le nouvel horizon russe? Et inversement, c'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir. Avec nous en studio, Louis Magloire Quemayou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Et par téléphone, Oleg Kobzev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université américaine de Paris. Ce sommet de grande ampleur à Sotchi, est-ce que c'est une façon de dire que la Russie est de retour en Afrique? C'est-à-dire qu'elle était un petit peu en retrait depuis quelques années, Oleg Kobzev?
Très certainement depuis la chute de l'URSS. Il faut comprendre que l'URSS avait une présence très importante en Afrique. Elle jouait un rôle moral très important auprès des pays qui ne se voyaient pas faire partie du clan occidental, soit qu'ils fussent des pays non alignés, ou alors qu'ils fussent carrément marxistes. Pour comprendre l'ampleur des investissements soviétiques qui commencent à partir des années 60, c'est-à-dire l'époque des indépendances des pays de l'Afrique subsaharienne, il suffit de se rappeler les énormes travaux qu'a effectués l'URSS à l'époque de Khrushchev pour construire des barrages le long du Nil en Égypte.
Louis Magloire Quemayou, ce sommet, c'est une bonne nouvelle pour les pays africains? Ça veut dire qu'ils ont un interlocuteur intéressé en plus?
Oui, je pense que l'Afrique avait besoin aujourd'hui, alors qu'elle est en train de bâtir sa zone de libre-échange continentale, d'avoir un partenaire qui puisse lui assurer la sécurité des investissements sur son sol et également un parapluie au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport aux vétos qui peuvent être émis, par rapport aux décisions d'aller faire la guerre pour renverser un régime ou un autre. Et donc, sur ce plan-là, l'Afrique avait véritablement besoin d'un partenaire qui ne soit pas qu'un partenaire économique comme la Chine, mais un partenaire qui a une vraie puissance de feu militaire, et c'est le cas pour la Russie.
La Russie, Oleg Kobzev, est-ce qu'elle avait totalement déserté l'Afrique ces dernières années, ou est-ce qu'elle restait plus ou moins présente, plus ou moins discrètement? En préparant cette émission, j'ai beaucoup entendu, lu des choses sur des sociétés de mercenaires, notamment, qui sont présentes en Afrique.
Oui, mais alors très modeste échelle, surtout si on compare à la présence soviétique d'avant 1991.
Est-ce qu'il y a un retard sur la Chine et la France qui organisent ce type de sommet depuis longtemps? Il y a une compréhension de ce retard à rattraper à Moscou?
Alors très certainement. Retard par rapport à la France, c'est absolument évident. La France jouit encore de son réseau que l'on appelle la France-Afrique, qu'elle avait établi encore du temps du général de Gaulle au moment de transférer l'indépendance et la souveraineté à ses anciennes colonies. La présence française est donc encore très puissante. La Chine, c'est une autre histoire. Alors, il faut se demander, est-ce que la Russie est en train d'essayer de faire concurrence à la Chine, qui est de moins en moins bien perçue par les Africains, ou alors joue-t-elle pour la Chine le rôle que l'Allemagne de l'Est jouait pour l'URSS autrefois? Autrement dit, va-t-elle faire le travail en coordination avec la Chine, parce que les Africains font plus confiance aux Russes qu'aux Chinois.
Ah ben ça c'est une bonne question, Louis Maglar que Mayou. Est-ce que les Africains font plus confiance aux Russes qu'aux Chinois?
Je pense que les Africains aujourd'hui sont en train de comprendre qu'ils ont une carte à jouer en diversifiant les partenariats. Le partenariat avec la France, prenons juste sur le plan militaire, une zone comme le Sahel par exemple, ce n'est pas demain que la France s'en désengagera militairement, donc ils savent pertinemment qu'ils ont encore besoin de la France à ce niveau-là, mais en diversifiant les partenariats, ils peuvent avoir à la fois l'aide de la Russie, l'aide de la Chine, mais sur des terrains tout à fait différents. Et je pense que les pays africains, en faisant cela, démontrent qu'ils sont arrivés à un stade aujourd'hui où ils ne sont plus obligés d'être cantonnés dans un partenariat comme celui de la France-Afrique que tout le monde continue de décrier, même s'il n'a plus la même nature que dans les années 60, et que cela lui permettra non seulement de développer son marché intérieur, mais de développer sa capacité à produire. Parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup soulevé pour l'instant, qui est la coopération nucléaire et la coopération militaire. Ce sont les deux grands aspects sur lesquels cette coopération portera et qui permettront à l'Afrique d'être par elle-même déjà autonome et ensuite de réagir face au marché européen. N'oublions pas que d'ici 2020, il faudra renégocier les accords de partenariat économique qui lient l'Union européenne et l'Union africaine. Donc si on ne trouve pas d'accord, il faudra continuer d'exporter et d'exporter vers de nouveaux partenaires comme la Russie.
Donc c'est un signe à la fois d'autonomie et de maturité en fait. Oleg Kobtsev, qu'est-ce qui intéresse la Russie en Afrique ? En premier lieu.
Alors, je vais en tant que spécialiste de la géographie politique, je vais commencer par ce à quoi on ne pense jamais. C'est la carte de l'Afrique. L'Afrique, les pays africains et surtout des pays qui sont situés assez au sud, comme le Mozambique ou l'Angola, ou éventuellement la Namibie, si on arrive à s'entendre avec elle. Ce sont des pays qui sont proches de l'Antarctique. Vous savez que à présent, le monde entier a compris que les enjeux dans les mondes polaires sont énormes et que la Russie investit énormément. La Russie essaye de se maintenir comme la première puissance des mondes polaires. Eh bien, les bases éventuelles, les étapes les plus proches pour des bateaux ou des trains ou des camions en route vers l'Antarctique, eh bien ça pourrait être des pays africains. C'est comme ça d'ailleurs que les Soviétiques avaient déjà envisagé la géopolitique de l'Afrique du Sud, enfin pas la République sud-africaine, mais des pays africains placés le plus au sud du continent, dans ce grand jeu qui comprend donc les régions polaires. Maintenant, ce qui intéresse aussi et surtout l'URSS autrefois et la Russie d'aujourd'hui, eh bien, ce sont toutes les ressources extrêmement riches qui se trouvent en Afrique. Ça, c'est ce qui intéresse tout le monde. N'oublions pas aussi qu'il y a de la main-d'œuvre et du savoir-faire qui est en train d'émerger en Afrique. On sait que, par exemple, vous avez de plus en plus d'ingénieurs africains qui produisent, qui réussissent dans le domaine spatial, par exemple, domaine qui intéresse énormément les Russes. Comme a très très bien dit votre invité africain, il y a la coopération militaire qui est très importante. Il ne faut pas oublier qu'il y a des générations d'officiers, marins, aviateurs ou soldats de terre qui ont été formés en URSS.
Louis Maglar que Mayou, alors on va reparler évidemment de l'intérêt stratégique de l'Afrique pour la Russie, mais parmi les intérêts pour la Russie, il y a une chose à laquelle on a parfois du mal à penser spontanément, c'est que il y a une classe moyenne qui se développe en Afrique et donc il y a un marché, des débouchés commerciaux pour une économie russe qui fait face à des sanctions ailleurs. Ça aussi, ça devient un vrai une vraie attirance pour les autres pays?
Je pense que le gagnant-gagnant est justement là. C'est sur le terrain à la fois commercial et économique, parce que sur le plan des industries extractives, la plupart des choses que l'Afrique propose, la Russie les a déjà. Donc elle n'a pas forcément besoin d'acheter en Afrique. En revanche, elle a besoin avec l'Afrique de faire un front commun pour pouvoir faire face aux sanctions qui peuvent éventuellement tomber. Et il ne faut pas oublier encore une fois que même sur le terrain du développement, l'industrie, la puissance nucléaire par exemple, son accès est très contrôlé aujourd'hui, y compris sur le plan civil. Kadhafi a essayé de développer l'énergie nucléaire sur le continent africain. Grand mal lui en a pris. Et je crois qu'aujourd'hui, en termes d'électrification, le continent africain, même si on parle beaucoup d'écologie, essaie de développer sa puissance électrique via le nucléaire. Et la coopération russe là-dessus, en termes de formation de cadres, en termes de transfert de technologie, va forcément faire une différence dans les prochaines années. La France fait de plus en plus payer très cher les études pour les étudiants africains. Elle fait également, elle pratique une politique de visa qui ne permet pas toujours. J'ai fait partie de cette vague d'étudiants qui sont allés étudier en Russie et dans l'ancienne Union soviétique. Donc c'est une politique qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains envoient leurs étudiants se faire former dans ces universités-là.
Oleg Kobsev, c'est une grande tradition ça de former des cadres africains en Russie, enfin en ex-Union soviétique. On évalue, je crois, et ça je l'ai vu en préparant cette émission, à 1,5 million de personnes, les Africains qui ont fait des études en Russie. Donc il y a une espèce de communauté d'esprit naturelle.
Oui, certainement. J'ai nombre d'amis d'ailleurs qui sont africains. Notamment un très proche ami éthiopien. Également le fils d'un ancien capitaine congolais de la marine congolaise, le petit-fils de ce capitaine congolais est mon filleul d'ailleurs. Donc c'est un sujet que je connais bien et dont je pourrais parler pendant très longtemps. C'est très juste. Il faut multiplier également ce 1,5 million de personnes dont on vient de parler par tous les enfants métis russo ou ukraino africains qui sont nés depuis plusieurs décennies. Donc on multiplie cette population. Maintenant, si on veut que l'amitié russo-africaine se maintienne, que la Russie maintienne une bonne image, il faudrait que la Russie fasse très attention au racisme, malheureusement, qui est absolument incontrôlé en Russie. On se permet de dire des choses et d'avoir des attitudes qui sont depuis longtemps inadmissibles parmi les segments de la population française ou américaine ou anglaise les plus réactionnaires. Donc là, il faudra que le gouvernement russe fasse vraiment campagne pour mettre fin à un racisme assez primitif qui d'ailleurs n'existait pas autrefois dans la Russie. C'est venu très progressivement dans les années 70, 80 et maintenant c'est complètement débridé.
Louis Magloire il y a une méfiance par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu, vous, quand vous avez fait vos études en Russie, à le subir, ce racisme?
Oui, et je pense que c'était dû en grande partie à l'ignorance des gens. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas habitués. Pendant l'Union soviétique, comme le disait mon autre interlocuteur, il y avait une force de frappe qui faisait que c'était mal vu de ne pas bien accueillir les camarades venus de l'étranger, puisque tous les Africains qui venaient par des bourses d'État. Et donc, il fallait qu'ils repartent avec une bonne image de l'Union soviétique. Et donc, les autorités étaient très sévères dans la répression des actes racistes et xénophobes. En revanche, avec la fin de l'Union soviétique, cela a été complètement débridé. Le nationalisme des différents États qui ont pris leurs indépendances a pris le dessus et ce sont souvent les étrangers qui en ont fait les frais. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce racisme qui existe, mais il faut quand même rappeler qu'il y a eu une Coupe du Monde en Russie et que sur le plan de l'accueil des étrangers, y compris des équipes africaines, le public russe a été parfaitement exemplaire.
Oleg Kobsev, on a parlé de ce que la Russie pouvait, ce qui pouvait intéresser la Russie en Afrique. Qu'est-ce que la Russie peut, elle, apporter aux pays africains?
Il y a tant de richesses culturelles et économiques en Russie. comme l'a très bien dit mon co-interlocuteur, nous décidons, nous n'arrivons pas à nous souvenir de nos noms respectueux, et je m'en excuse. Il y a un grand marché, il y a une classe moyenne qui se développe, et la Russie pourrait en fait là trouver des débouchés pour tous ces produits manufacturés, parce que au fond la Russie est la dernière grande puissance industrielle du XXe siècle qui a encore une industrie manufacturière importante, des automobiles, des radios, des télévisions, du textile, quoi encore, que sais-je encore, des jouets. Il y a beaucoup à exporter, et ça a été aussi assez négligé depuis la fin depuis la chute de l'URSS, et probablement parce qu'effectivement, il y a eu des sanctions, et on ne voit pas très bien où on pourrait vendre des produits qui potentiellement pourraient intéresser un public important. Il y a également, je pense, une vision alternative de l'Occident. Il y a tous les produits culturels de la Russie qui pourraient maintenir un lien entre les pays africains et l'Europe sans qu'il y ait tout un passé colonialiste entachant la culture européenne en Afrique.
Ça, c'est une vraie plus-value, ça, Louis Magloire Quebaillou, le fait que les Russes ne soient pas les Français, pour le dire très clairement.
Oui, aujourd'hui, la Russie en joue beaucoup. Faut pas oublier que pour l'accession à l'indépendance, ce sont quand même deux pays comme l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis qui ont fait pression pour que les indépendances puissent arriver dans la période des années 60. Et donc, ce souvenir-là, il reste très vivace. Après, la Russie a eu à se reconstruire à la fin de l'implosion de l'Union soviétique. Elle a eu à se maintenir après l'embargo que les Européens lui ont imposé par rapport à l'invasion de l'Ukraine. Et donc, aujourd'hui, elle réussit à se projeter à la fois au Venezuela, en Syrie, et à tenir tête à l'Europe, à tenir tête aux États-Unis. Et ça, pour les pays africains, ça prouve qu'il y a une nouvelle puissance qui émerge et qui peut, sur le plan militaire, les aider non seulement à tenir la sécurité à l'intérieur de leurs frontières, mais également à commencer à faire avancer l'agenda sur la protection au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où on n'aura plus une voix monocolore, une chambre monocolore, avec des puissances qui s'entendent entre elles, les trois principales puissances, l'Angleterre, la France et les États-Unis, pour sanctionner estime-t-il de façon impériale les pays africains.
Et oui, Oleg Kobsev, concrètement, l'influence russe en Afrique, elle se traduit surtout aujourd'hui par l'aide militaire, on pense à la Centrafrique notamment.
Je ne connais pas très bien ce sujet-là pour les années récentes. Donc je vais peut-être laisser mon collègue répondre là-dessus. Je suis tout à fait, mais dans l'ensemble, pour la Centrafrique, je suis pas très au courant, mais en général, oui, certainement, ce qui est très important, mon collègue Michel Katsolia sur l'antenne de France 24 dans le débat hier dans le studio anglophone l'a très très bien dit. La Russie a montré ce qu'elle pouvait faire en Syrie. La Russie sera toujours derrière ses alliés, ses partenaires, quoi qu'il arrive. C'est mon allié, qu'il ait tort ou raison. Elle l'a prouvé en étant complètement fidèle à son allié Bachar el-Assad. Bon, Bachar el-Assad, dictateur sanguinaire, certes, mais la victoire diplomatique de la Russie, c'est de montrer qu'elle sera toujours derrière ses partenaires, quoi qu'il arrive, quel qu'il soit.
Oui, Louis Magloire.
Ça, c'est très rassurant pour les États africains, qu'ils soient des démocraties ou des dictatures. Ils savent qu'ils seront protégés par la Russie si la Russie leur promet protection. La Russie tiendra promesse.
Oui, Louis Magloire Quemayou, en quelques secondes, la Russie, c'est un partenaire fiable.
Oui, la Russie est un partenaire fiable et je pense que l'épisode libyen avec l'assassinat de Kadhafi, où il y avait eu une motion qui avait été votée mais mal appliquée, a donné à réfléchir à beaucoup d'Africains. Et le fait d'avoir un partenaire comme la Russie rassure aujourd'hui.
Merci Louis Magloire Kemayou d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous Oleg Koptsev. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination. Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Alice Ménard. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Demain, c'est les Dessous de l'Infox avec Romain Ozoui. Bonjour chez vous.